Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable.
Dans son guide pratique du potager productif en ville, Johan Hubert nous propose de cultiver les légumes hors sol. Cultiver des légumes en ville, c'est possible, mais si l'on veut vraiment avoir des récoltes abondantes et saines, il est préférable de pratiquer la culture hors sol, nous dit-il. Radio Éthique lui a fait remarquer que depuis la nuit des temps, on cultivait les légumes dans la terre et que l'on pouvait se poser la question si la culture hors sol était vraiment un progrès.
C'est pas forcément un progrès, c'est plutôt une réponse à une problématique contemporaine. Ça veut pas dire qu'on va plus du tout cultiver ses légumes sans terre, hein, puisque cultiver ses légumes hors sol, c'est simplement cultiver ses légumes en dehors de la pleine terre. Donc à partir de là, il y a tout un tas de techniques qui permettent en fait d'atteindre un objectif qui est in fine celui de pouvoir consommer des produits que nous avons cultivés durant toute la saison. Alors pour parvenir à cet objectif, on pourrait toujours être tenté d'utiliser un simple pot de terre avec un peu de terre dedans et mettre une graine ou une plante. Et puis régulièrement, lorsqu'on habite en ville, on se rend compte que c'est une aventure qui n'est pas si simple qu'elle le paraît. Puisque de là à obtenir une récolte et à la consommer, il y a souvent une petite déception qui intervient au bout de quelques semaines, puisque la plante ne se comporte pas comme on le désirerait. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'accès à la terre en ville, et que pour pouvoir venir à cultiver des végétaux et obtenir des résultats qui sont satisfaisants, puisque le jardin c'est quand même une activité qui prend du temps, on est obligé d'adapter un petit peu son savoir-faire à l'environnement déjà, à l'environnement qui nous entoure, mais aussi à des techniques qui permettent effectivement d'atteindre les résultats qu'on souhaite obtenir.
Vous nous dites que la culture hors sol, elle est plus productive.
Elle peut être plus productive, mais pas nécessairement plus productive, puisque nous, aujourd'hui, on privilégie la culture hors sol dite biologique, celle qui, bon, un peu comme l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, ce sont des sœurs, mais qui n'abordent pas la technique et le travail de la même façon. Et donc, par conséquent, la culture hors sol biologique est, elle aussi, bien moins productive que l'agriculture entière hors sol intensive, telle que celle qu'on trouve dans les serres espagnoles ou hollandaises.
Tout à fait. C'est ce qui fait un petit peu peur quand on lit le titre, on se dit, oh là là, hors sol, de quoi il va nous parler? De tomates qui sont poussées en Hollande, dans des substrats, on ne sait pas trop lesquels. C'est pas tout à fait ça. Ça peut être ça si on veut, mais c'est pas votre objectif.
Voilà, donc l'idée du livre, c'est déjà de présenter un ensemble de techniques, sans prendre forcément de parti pour ou contre les pratiques de l'industrie ou les pratiques que nous pourrions avoir. Simplement de souligner les avantages et les inconvénients de chacune d'elles, et puis aussi donc apporter des solutions si pour ceux qui souhaitent véritablement produire en ville, avec des solutions simples, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir recycler des déchets organiques, la possibilité de pouvoir valoriser des eaux de pluie, la possibilité de réemployer des contenants plastiques destinés à l'incinération, mais qui pourraient être tout à fait valables pour produire des végétaux. Et donc, véritablement, c'est toute une philosophie autour de la production des légumes en ville qui s'organise autour d'une technologie, finalement, qui aujourd'hui reproduit la vie du sol.
C'est très attrayant, parce que comme vous dites fort justement, transporter de la terre ou mettre de la terre sur un balcon, c'est encombrant et c'est surtout très lourd. Il y a des questions de sécurité, on ne peut pas forcément faire une énorme jardinière sur un petit balcon.
Alors, utiliser de la terre sur un balcon, bien entendu, c'est lourd, ça peut être très compliqué à mettre en œuvre. On n'est pas obligé d'atteindre les résultats qu'on souhaite atteindre, puisque ça ne veut pas dire puisqu'on met de la terre, qu'on va obtenir un résultat qui va fonctionner. Puis à côté de ça, aujourd'hui, la terre, si on utilise du terreau, il faut savoir que le terreau fait plusieurs milliers de kilomètres pour arriver jusque chez nous, hein, puisqu'il provient de tourbières qui sont en voie d'extinction dans les pays de l'Est ou ailleurs. Et donc, il n'est pas aussi évident et aussi simple de se dire que je jardine avec de la terre, donc je jardine écologique. Ça ne veut plus dire ça aujourd'hui. Donc, il existe d'autres techniques. Par exemple, comme indiqué dans le livre, la possibilité d'utiliser du compost ou du lombricompostage, la possibilité d'utiliser en fait des déchets comme les éponges végétales que nous utilisons tous les jours pour pouvoir laver notre vaisselle, la perlite aussi, la litière pour chat, qui pour certaines qualités d'entre elles proviennent de perlite, hein, donc d'un minéral qui est tout à fait valable en culture hors sol, des bouchons en liège par exemple aussi, qui sont largement utilisés dans d'autres, le liège en tout cas largement utilisé pour faire des substrats, mais on peut aussi récupérer des bouchons en liège et en faire des substrats. Donc il y a véritablement un autre angle de vue qui est proposé dans le bouquin qui permet aussi de se faire une idée des cultures hors sol et puis aussi éventuellement de faire le choix d'utiliser de la terre ou d'utiliser autre chose.
Ça veut dire qu'on peut avoir un espace extrêmement restreint. Les jardinières sont parfois très petites, très fines ou très étroites et on peut avoir des résultats tout à fait remarquables. Mais il faut faire très attention. Il y a plusieurs choses, c'est l'eau et l'alimentation de la plante.
Bien entendu, je pense que ça, c'est valable pour tous les domaines de l'agriculture ou de jardinage ou de l'horticulture. L'un des éléments les plus importants pour une plante, c'est effectivement de pouvoir se nourrir et donc d'absorber aussi de l'eau pour pouvoir conduire les nutriments à l'intérieur de la plante. Et en l'occurrence, cette compréhension et en tout cas la maîtrise de la technique de l'irrigation et de la nutrition des végétaux est une condition primordiale pour pouvoir atteindre des résultats qui soient à la hauteur du travail ou en tout cas du temps qu'on investit sur cette pratique.
Et alors pour l'alimentation de la plante, bon, l'eau, ça peut être l'eau de pluie ou l'eau du robinet, elle doit être en quantité importante, ça il faut bien le régler, vous l'expliquez dans votre ouvrage, très bien. L'alimentation de la plante, on va apporter des engrais liquides. Vous pouvez nous en parler un petit peu? On préfère bio chez Radioéthique.
Et vous faites bien. Donc aujourd'hui, oui, il y a plusieurs solutions pour nourrir une plante. On peut utiliser des engrais dits minéraux, qui pour certains sont des engrais chimiques. On peut utiliser donc des engrais dits liquides biologiques, donc certifiés biologiques, qui eux sont issus de la transformation en fait de ressources, de déchets provenant de l'agriculture biologique. Et puis, il y a aussi une dimension, on va dire, plus personnelle, qui consisterait à réaliser soi-même ses propres engrais. À partir des déchets organiques que nous produisons chaque jour dans notre milieu, dans notre environnement urbain. Donc voilà, avec ces trois options, on peut quand même déjà commencer à travailler sur la nutrition des végétaux. Et puis, selon son degré, peut-être d'engagement ou le degré de maîtrise qu'on souhaite obtenir sur la culture, on va pouvoir s'orienter sur tel ou tel autre choix.
Il y a aussi un élément à prendre en compte qui est important, c'est l'environnement du potager.
Alors, bien entendu, l'environnement du potager est essentiel. En l'occurrence, en ville, on pourrait être tenté de penser que, puisqu'on a un immeuble devant soi, qu'on n'a pas forcément le soleil toute la journée, on ne pourra pas faire de tomates. Or, la réalité montre que c'est souvent pas le cas, puisque la réverbération des immeubles, la réverbération de la lumière, la production de chaleur, qui justement crée certains îlots de chaleur sur certaines parties de la ville, peuvent créer un environnement tout à fait favorable pour cultiver toutes sortes de végétaux, même quelle que soit l'exposition. Alors, bien entendu, on ne parle pas de cultiver dans une ruelle sombre plein nord. Mais à partir du moment où on a les lumières en ville, en général, on peut déjà faire beaucoup de choses très très intéressantes et on peut produire quasiment tous les produits qu'on souhaite. Si vous suivez mes conseils, si vous disposez de peu d'espace, je vous invite tous à cultiver des cornichons, des concombres, des tomates, des plantes généralement qui vont prendre un petit peu de hauteur. Puisque lorsqu'on a peu d'espace au sol, eh bien, il faut privilégier l'espace qu'on peut avoir en volume, en trois dimensions. Si vous avez un peu plus d'espace au sol, bien entendu, on va pouvoir agrémenter cette culture de cornichons, de tomates et de concombres avec des plantes aromatiques, du basilic, du thym, du persil, finalement tous les produits de grande consommation qu'on utilise généralement et qui nécessitent d'être frais pour offrir le meilleur de leur qualité gustative. Ensuite, lorsqu'on a encore un petit peu plus d'espace, puis quand on a envie de travailler sur une recherche agronomique ou en tout cas sur des variétés qu'on ne trouverait pas dans le commerce, alors là, je vous inviterai à cultiver des fraises noires, à cultiver des fraises blanches, à cultiver finalement toutes les plantes qui peuvent stimuler votre imagination et éventuellement votre idée de la cuisine.
Vous nous mettez l'eau à la bouche, mais alors elles vont être horriblement polluées dans en ville, ces plantes, sur mon balcon.
Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la pollution, surtout en ville, oui, les villes sont polluées. Ça, on ne peut plus le contester aujourd'hui. Maintenant, une autre réalité se met en avant lorsqu'il s'agit de cultiver des végétaux. La pollution dont nous avons pu faire l'écho il y a encore quelques semaines à propos des jardins urbains pollués est le résultat de quasiment un siècle et demi de pollution, puisque la terre joue le rôle de filtre. Donc 100, 150 ans, depuis les premières révolutions industrielles, nous avons eu des pluies qui ont accumulé des polluants sur les sols. Donc effectivement, lorsqu'on cultive des végétaux et dans ce type de milieu, dans cette terre, il peut arriver que certaines d'entre elles ingèrent une grande partie de polluants. Lorsqu'on travaille sur du potager, on va dire, hors sol, mais qui n'a pas subi 100, 150 ans de pollution, il est tout à fait exceptionnel de retrouver des polluants, puisque la pollution atmosphérique annuelle ne suffit pas à charger les végétaux en polluants, et notamment de manière à ce que ça puisse être nocif pour notre santé.
Bon ben c'est la solution pour l'alimentation de demain. Le citoyen urbain va avoir des légumes à proximité et en même temps de bonne qualité et sains.
En tout cas, c'est la possibilité pour ceux qui souhaitent cultiver, ou en tout cas consommer des végétaux, soit rares, soit un peu oubliés, de pouvoir le faire sans utiliser de produits chimiques, sans utiliser de pesticides, en ayant un contrôle absolu sur la qualité de leurs produits. Donc oui, dans un certain sens, c'est peut-être un bond vers une agriculture moins contrainte par le rendement, mais plus par la qualité.
Cultiver ses légumes hors sol, le guide pratique du potager productif en ville de Johan Hubert, est paru aux éditions Ulmer.